Couture dans le Mid.
Avec Pierre Couture et Frank Fournier.
Radio X.
Ouais, ben pour le prix de l'essence, là, allez mettre du gaz parce que ça va monter. Encore aujourd'hui, le prix du baril de pétrole monte et l'essence est autour de quoi? Là? Je regarde dans la région de Québec, tu as du 1,87,9 chez Costco, mais tu as du 1,96,9. Et dans certains cas, on est sur le bord du 2$.
Ben moi, j'étais à Montréal en fin de semaine pour un truc de famille. Puis,
2$,
j'ai
c'est
vu
là,
du
là.
2 et 3, oui, 2 oui. et 4. Là. Ça fait exact. Mal. Quand tu vois ça, c'est... Ça fait mal.
Tu vois, dans le coin de Montréal, oui, effectivement, le 2 piastres a été pogné. 2 et 4, notamment 2 et 5. On est là-dedans. Y es-tu là, notre gars?
Il est là. Là.
Chronique politique avec Rodolphe Osni.
Rodolphe, comment ça va?
Bonjour Pierre, bonjour Frank, bonjour Québec, je vais bien.
Ben là, yes. Là, Mme Fréchette sort la tirée lourde. Il y a les sondages aussi, je ne sais pas, je te laisse aller, pars où tu veux aller.
Ben écoute, on peut commencer par les sondages. C'est d'un côté, tu peux voir ça, le verre à moitié vide ou à moitié plein, ça veut dire que ça bouge pas beaucoup, ça reste quand même que le Parti québécois, puis ça fait des semaines, des mois, qu'ils sont toujours entre 29, 30%, donc pour le Parti québécois, ça reste stable, mais ça veut dire qu'il leur en manque encore beaucoup pour réussir à avoir un gouvernement majoritaire. On est toujours dans le scénario d'un gouvernement minoritaire. Pour la CAQ, la bonne nouvelle, c'est encore une fois, ils sont dans le mix. Ils sont encore et ils dépassent un tout petit peu le Parti libéral du Québec, mais c'est aussi dans la marge d'erreur. Mais encore une fois, si on revient 3 à 6 mois, ben avant, ils étaient morts et enterrés. Et là, maintenant, ils sont encore dans le mix. Donc, on voit que ça monte un peu moins doucement pour Mme Fréchette. Donc, est-ce qu'elle a plafonné? On verra. Et pour le Parti libéral, ben la mauvaise nouvelle pour eux, c'est qu'ils sont derrière la CAQ, dans le vote francophone. On le sait, ils sont encore très, très, très loin derrière. Pour la CAQ aussi, il y a un élément qui n'est pas bon pour eux. C'est vraiment le vote des 18-34. Ça reste quand même leur gros, gros défi. Alors, je ne sais pas exactement ce que notre ami Olivier Primo est en train de faire, en tout cas sur ses médias sociaux, mais ça ne marche pas très fort, en tout cas pour la CAQ, pour les 18-34. Donc, il va falloir qu'ils fassent quelque chose s'ils veulent, en tout cas, remonter. Puis une donnée que j'ai trouvée intéressante aussi ce matin dans le sondage léger, oui, je viens de te dire que Paul Saint-Pierre Plamondon, toujours à 29-30, mais il y a quand même un différentiel entre les hommes et les femmes. Il reste encore faible chez les femmes par rapport aux hommes. Il y a un différentiel de 10 points. Donc, peut-être un travail encore à faire pour adoucir son image, en tout cas auprès des femmes, pour Paul Saint-Pierre Plamondon. Donc, on voit que sur leur bulletin, ben, ils ont tous peu mieux faire. Parce que pour l'instant, personne n'est encore en train d'avoir son objectif. Ça veut dire soit un gouvernement majoritaire pour le PQ, le Parti libéral de réussir à remonter chez les Franco et la CAQ de réussir à attraper le vote des 18-34. Parce que pour l'instant, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Ça va être encore quoi? Ça va être les débats, je pense, le moment qui va faire en tout cas bouger beaucoup de choses.
Ben, t'es d'accord avec moi que 6 milliards est meilleur que ce qu'on s'attendait, là? Ou moins bon, je ne sais pas trop comment on peut voir ça, là. Mais la CAQ ne remonte pas, là. Comprends? C'est vraiment l'effondrement de milliards qui fait que la CAQ monte?
Ben oui, exactement. Ça veut dire milliards, il n'y a pas eu un bon début, puis on en a déjà parlé. Ensuite, on dirait qu'il s'est réajusté, a réussi à quand même avoir quelques annonces, réussir à avoir un tout petit peu de visibilité médiatique. Mais encore une fois, il y a toujours ce déficit de notoriété. On ne sait toujours pas pourquoi Charles Milliard va être premier ministre, pourquoi il est en politique. C'est quoi qui le réveille au milieu de la nuit ou qu'est-ce qu'il mange en hiver?
Ouais.
Puis ça reste toujours un problème pour Charles Milliard. Écoute, hier, il a fait cette vidéo, cette un peu mini adresse à la nation. Ça avait l'air un tout petit peu improvisé parce qu'il a annulé sa journée pour faire ci. Est-ce qu'il voulait répondre directement à Mme Fréchette? Parce qu'il savait que Mme Fréchette allait avoir, bien évidemment, le feu des projecteurs. Puis on l'a vu ce matin avec sa conférence de presse. Tu sais, des fois, on ne sait pas exactement c'est quoi leur stratégie. On dirait qu'ils essayent beaucoup de choses, mais pour l'instant, ça n'a pas l'air de beaucoup fonctionner. Ils sont toujours dans la game. Et comme je te dis, il ne faut jamais sous-estimer les libéraux. Mais encore une fois, tu sais, c'est sûr qu'ils vont gagner à Laval des comtés. Ils vont réussir à gagner en Outaouais, à Gatineau, des comtés. Mais pour l'instant, il plafonne aussi, si on regarde la projection de sièges, à peu près 30 sièges.
Oui, mais moi, si j'étais à la CAQ, moi, ce serait mon meilleur espoir. C'est que je regarde là, par groupe d'âge, là, puis dans le 65 ans et plus, même dans le 50-64, les libéraux tirent encore à 20 % dans le Palace, puis à peu près même chose dans le léger. Là. Ça, s'il y a un transfert de vote de ces gens-là, puisqu'on comprend que ça ne peut pas être tout le monde, parce qu'il y a du vote anglo là-dedans également, oui, là, oui. Mais dans le vote francophone, c'est-à-dire que si on remonte à Dominique Anglade, là, elle est déjà descendue bien en bas de la barre des 20 %. Là. Donc lui, il est à 22 actuellement, 20-22, s'il descend jusqu'à 15-16, c'est sûr que c'est la CAQ qui va en bénéficier. Là.
Oui, non, c'est sûr qu'on est dans une situation de vase communicant, à la fois Mme Fréchette, à la fois Charles Milliard se bat un tout petit peu pour le même électorat. Puis c'est toujours qui peut rassurer, qui peut faire barrage à une consultation populaire ou à un référendum. Là, maintenant, j'ai appris que c'est soi-disant des synonymes. Donc, on va voir, et c'est sûr, mais il va falloir voir ça va être comment sur les podiums lorsqu'il va vraiment avoir les débats, qui a l'air le plus rassurant, qui a l'air le plus en confiance. Mais le problème, c'est que les débats, c'est tous une question d'attente. Vous savez comment c'est. T'sais, on a des attentes envers les chefs, puis dépendamment de comment ils performent, c'est en fonction des attentes. Puis là, j'ai quand même l'impression qu'il y a tellement de pression sur le chef libéral pour essayer de changer la tendance.
Mais il n'est pas bon.
C'est juste que ça va. D'un côté, il doit être en train de se mettre beaucoup de pression ben oui. pour les débats. Puis, tu sais, le mental, la force du mental, ben, tu sais, des fois, tu te dis, OK, il faut que je fasse un gros coup. Mais des fois, ça peut faire mal à sa performance ou à sa confiance ou si on commence à douter. Tu sais, des politiciens en débat, là, je peux vous le dire par expérience, c'est presque comme des athlètes, là. Ça veut dire, c'est des athlètes qui se préparent à une compétition, c'est à la fois physique et mental. Puis on verra, mais d'avoir comme ça ces sondages où ils disent, bon, il faut qu'on fasse quelque chose.
Ouais.
Même son équipe, elle dit, oui, vous allez voir les débats et tout ça. Même son équipe sont en train d'eux-mêmes monter les attentes. Tu sais, nous, je te parle de 2015, là, avec Justin Trudeau, il y avait un de nos conseillers qui avait dit, puis ça avait été une catastrophe, mais tu sais, il avait dit, Justin Trudeau, s'il se présente déjà avec des pantalons, ce sera une victoire. Bon, ben tu vois ce qui est arrivé en 2015.
Ouais, mais la stratégie fédérale, de miser sur la CAQ plutôt que sur le Parti libéral, ça en dit long aussi. Là. T'sais, si tu as Pablo Rodriguez au lieu de Charles Milliard qui vient du fédéral, on aurait misé toute la stratégie, la campagne là, qu'on voit actuellement, la campagne de peur avec Trump. Là. Là, on a décidé de miser sur la CAQ là-dessus. T'sais, ça en dit long sur peut-être le chef du Parti libéral.
Ben oui et non, parce que tu sais, d'un côté, quand tu regardes là, Marc-André Blanchard, qui est le chef de cabinet de Mark Carney, c'est un ancien pur et dur du PLQ, là, faut pas l'oublier.
Oui, mais on a vu dans le milliard quelque chose que peut-être toi et moi on n'a pas vu, mais qu'on commence à voir là.
Oui, ben écoute, moi est-ce que Mme Fréchette, puis ça, il faut leur donner, là, l'équipe de la CAQ, que ce soit l'équipe, surtout l'équipe de leadership de Mme Fréchette, ils avaient un plan de match, ils ont respecté leur plan de match. Ils ont essayé de construire un bilan à Mme Fréchette. Ils ont réussi à avoir quand même certaines réalisations. Est-ce qu'ils étirent trop la sauce? Oui, là. Moi, la semaine dernière, je l'ai dit, je le redis, là. D'avoir dit que Paul Saint-Pierre Plamondon, il y a une convergence entre lui et Trump.
C'était fort,
moi, je trouvais que c'était too much, là. Ça veut dire, c'était la même campagne de diabolisation que les libéraux ont fait à Ottawa contre M. Poilievre, etc., en les appelant, à l'époque, ils les appelaient les magas sirop d'érable.
Ouais.
Donc, tu vois que c'est un peu le même plan de match. Mais la réalité, c'est que Mme Fréchette, il faut qu'elle fasse aussi attention, parce que là, à chaque fois, on se dit, hey, là, t'es un peu en train de jouer sur la peur. Il faut qu'elle rassure. Faut pas non plus qu'elle a l'air qu'elle veut ça, puis elle veut parler de Trump. Tu sais, la semaine dernière, elle a dit, hey, pourquoi vous me posez pas plus de questions sur Trump? Bon, mais tu vois qu'au bout d'un moment, il ne faut pas que ce soit aussi gros en termes de OK, je vois ce que tu essayes de faire.
Bien, puis il y a un danger, moi, je trouve, pour Mme Fréchette. Là, elle joue l'espèce de game de la grandeur. Là. On dirait presque en fait qu'elle est première ministre du Canada, mais moi, je regarde les chiffres. Là. Dans Trois-Rivières, elle n'est même pas sûre de passer. Puis ce qu'on me dit, c'est que le Parti québécois, qui est à talonne de très près, ont un excellent candidat. Là. Jean Pellerin, c'est un gars de la Chambre de commerce. Il était président de la Chambre de commerce de Trois-Rivières. Il a travaillé dans des gros cabinets dans le monde de l'immobilier, bac en administration des affaires. T'sais, c'est un gars qui est bien implanté dans Trois-Rivières. Puis je ne serais pas surpris du tout que ce soit lui qui remporte. Là. Donc là, peut-être que maintenant, il va falloir qu'on lâche Trump et qu'on aille faire du porte-à-porte dans Trois-Rivières. Là.
Ben, les deux chefs, et c'est bien que tu le mentionnes, Frank, à la fois, c'est pas gagné pour Mme Fréchette dans Trois-Rivières, c'est pas gagné pour Charles Milliard dans Hartford aussi. On sait très bien que pour avoir un gouvernement ou pour avoir beaucoup de députés, il faut gagner, par exemple, l'Estrie puis des régions comme ça stratégiques. Pour l'instant, le Parti libéral en Estrie, je suis même pas sûr que Fred Beauchemin, par exemple, le candidat, l'ancien député libéral qui a déménagé à Brome-Missisquoi, si lui aussi, là, c'est pas gagné aussi son élection. Donc, tu vois que pour beaucoup de députés puis pour deux chefs, ils jouent pas seulement la campagne, ils jouent que c'est pas même dit qu'ils auront leur siège. Donc, tu vois qu'il y a une dynamique qui est quand même très, très intéressante, puis que ça remet encore plus de pression pour tout le monde, pour les débats. Puis, Paul Saint-Pierre Plamondon, écoute, moi, j'ai bien aimé sa communication hier où il a dit que ça aurait pu être un email. Donc, tu vois que chaque chef essaye un peu comme ça de tirer son épingle du jeu. Éric Duhem a dit, bon, ben, moi, j'y vais pas à votre réunion. Ça sert à rien. Puis ensuite, bon, les autres chefs ont dit on est allé, puis on n'en a pas plus appris. Puis Mme Fréchette, je l'ai vue ce matin à sa conférence de presse, là, son histoire que c'est elle qui a fait bouger la ligne de je sais pas quoi ou ben la 14e oui. ligne, là. Disons qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui croient très, très fort à cette version-là. Donc, tu vois qu'il faut qu'ils fassent attention au spin, en tout cas, parce que regarde, même les libéraux fédéraux ont dit bon, ben, c'est pas vrai.
PCQ, toujours à 15, 16, puis QS qui reste à 10. Eux doivent consolider leur base, c'est ça qu'on travaille beaucoup hein, là-dessus.
Oui, et puis c'est une bonne stratégie. Ça veut dire que Mme Gazaz se concentre bien évidemment à Montréal, qu'elle vienne de temps en temps à Sherbrooke. Faut pas l'oublier, c'était le comté de Christine Labrie. On va voir qu'est-ce qui va se passer dans votre coin à Québec avec Sol Zanetti et M. Grandmont. Pour l'instant, quand tu regardes les sondages, c'est toujours une lutte à trois à Québec entre le PCQ, le Parti québécois, et la coalition, mais comme vous savez mieux que moi, bon, ben, il y a certaines circonscriptions qui sont plus d'un côté que de l'autre. Donc, la bataille de Québec est encore vive, puis on va voir aussi qu'est-ce qui va se passer dans les régions, qu'est-ce qui va se passer dans les campagnes. Mais le problème aussi, c'est qu'à 5 chefs, là, c'est tellement difficile pour les chefs d'avoir de la visibilité, puis on est tellement en train d'annoncer des affaires, là, qu'à un moment, il va falloir que les partis se ramassent un peu pour essayer, parce que là, pour l'instant, j'ai pas l'impression que les gens ont retenu beaucoup des propositions. Puis, tu sais, en politique, là, quand tu fais ton porte-à-porte, des fois, tu dois être capable de dire, bon, ben, mes 3 trucs clés, c'est ça. Puis là, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on a annoncé pour les aînés, on a annoncé pour la santé, on a annoncé des crédits d'impôt, mais il va falloir que tôt ou tard, on se ramasse en termes de, hey, si tu votes pour ça, c'est 3, voici mes 3 points.
On parlait avec Luc Dupont, professeur de marketing, vendredi, puis il nous disait que la campagne allait commencer avec le débat des chefs, ou à tout le moins là, les espèces de face-à-face. Ça commence. Là. Cette semaine, on va en avoir peut-être, je pense qu'il y en a un demain. Là.
Oui, 5 chefs, une rencontre. D'ailleurs, c'est chez vous, à Québec.
Comment tu vois ça, la game? Parce que là, si tu es conseiller des chefs, tu leur dis quoi? Ils doivent scorer là, clairement.
Ben c'est ça. La réalité, c'est qu'ils doivent scorer, puis chacun a un tout petit peu le défaut de ses qualités ou le qualité de ses défauts. Ça veut dire, M. Paul Saint-Pierre Plamondon doit avoir l'air d'un premier ministre. Il doit faire attention de pas avoir comme ça, d'avoir l'air trop hargneux ou d'avoir un ton, on va dire, trop cassant, parce que ça peut lui donner une mauvaise image. Donc, on le voit aussi, là, des fois, il veut tout le temps avoir raison à tout prix. Des fois, tu peux gagner le débat, mais tu peux perdre l'élection si tu as l'air que t'as pas l'air d'un premier ministre en attente. Pour Mme Fréchette, oui, ça veut dire qu'il faut qu'elle arrive comme ça à toujours continuer à avoir cet air de confiance. L'avantage, c'est qu'elle est première ministre, donc les gens l'ont déjà vue en tant que premier ministre. Charles Millard, il va vraiment falloir qu'il nous dise c'est quoi son identité politique, parce qu'être sympathique, et il est sympathique, là, je vous le dis, je l'ai rencontré plusieurs fois, on le voit, ouais. C'est quelqu'un de sympathique, mais au-delà d'être sympathique, il va falloir qu'on sache. Puis, écoute, moi, je pense qu'Éric Duhem est dans une position où il peut jouer au trouble-fait, comme, et il ne faut jamais sous-estimer. En débat, les attentes sont très basses pour Mme Ruba-Gazal, mais tu sais quoi? Quand les attentes ils sont basses, ben, si tu fais un bon coup, ça peut faire aussi réagir. Donc, ce serait intéressant de voir à la fois Éric Duhem, le plan de match, puis à la fois Ruba-Gazal, parce qu'eux peuvent mettre aussi, tu sais, si on fait des tirs groupés, là, contre un candidat ou un autre, disons qu'eux peuvent un tout petit peu arbitrer aussi, ça va être intéressant.
Bon, au fédéral, on passe à l'offensive, hein, avec les contre-tarifs aujourd'hui à Ottawa. On a annoncé ça. Les Américains pourraient répliquer. On cible Bombardier. Là, Trump a parlé de Bombardier hier. On ne pourra pas gagner comme ça, là, avec des Américains 10 fois plus gros que nous. Là. Y a-t-il une stratégie qu'on doit adopter ou on continue à jouer dollar pour dollar? À un moment donné, ça va faire mal, ça.
Ben, parce que le problème, c'est que, regarde, il y avait deux choix. Ça veut dire soit on faisait dollar pour dollar ou on faisait des secteurs stratégiques. Par exemple, on taxait la potasse ou on taxait certains éléments qu'on sait que les Américains ont mal. Là, actuellement, on a choisi dollar pour dollar. Mais le problème, c'est que dollar sur dollar, on ne pourra pas continuer comme ça. Les États-Unis ont fait 27, on a fait 27. Mais si les États-Unis rajoutent 20, on ne pourra pas rajouter aussi un autre 20, pour te dire. Donc, on est un tout petit peu dans cette réalité. On va se le dire clairement, là. Moi, on utilise le terme tarif, mais c'est des taxes, là. C'est-à-dire, on est en train de. C'est des taxes, là. Eux, ils nous ont taxés, nous, on les retaxe en retour. Là, le gouvernement est en train de dire bon, ben, on va vous compenser, on va mettre de l'argent, mais on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire paperasse, ça veut dire bureaucratie, ça veut dire que ça va être des coûts supplémentaires pour les entreprises.
Des prêts? C'est des prêts, Rodolphe.
Ben, c'est ça. Mais soit des prêts, ou sinon, ils ont dit maintenant, comme Mme Fréchette a parlé hier en disant, bon, ben, si votre intrant, vous n'arrivez pas à en trouver un, puis vous devez acheter quand même celui des États-Unis, bon, ben, on va vous compenser la différence. Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire documentation. Puis on l'a vu aussi durant la COVID. C'était comme, ah, OK, on accepte tout. Puis 3 mois, 6 mois après, ils viennent, ils te revérifient, puis ils disent, ça, c'est pas correct, ou ça, c'est pas correct. Donc, on va voir exactement. Mais la réalité, c'est qu'on a les entreprises, on sait comment c'est compliqué maintenant les chaînes d'approvisionnement. Et ça fait que ça complique énormément pour savoir exactement il vient d'où cette pièce ou ce matériel ou cet équipement.
Et Trump va s'amuser, là. Hein? Là, c'est Bombardier. Demain, ça peut être Produits récréatifs Bombardier. Ça peut être les compagnies d'assurance. Ça peut être les banques. Il va y aller comme ça, puis il va... Est-ce que c'est de l'ingérence directement dans la campagne ou de l'ingérence? Lui, il sait ce qu'il fait, là.
En tout cas, de ce qu'on apprend des informations, il devrait avoir une conversation, oui. Je pense, aujourd'hui entre Greer, le représentant au commerce, et Dominique Leblanc. Donc, on va voir qu'est-ce qui va sortir de cette déclaration. T'as raison. Est-ce que M. Trump, à chaque fois qu'il va faire un tweet, ça va faire qu'on ne sait pas si c'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce qu'il peut vraiment faire, il y a certaines personnes qui disent, écoute, là, au bout d'un moment, il peut pas non plus dire, hey, j'interdis des avions bombardiers, là. Ça veut dire, je veux bien que le président des États-Unis est super puissant, mais il y a aussi quand même des limites. Donc, on va voir encore une fois, mais est-ce qu'on est dans une guerre de com? Tout à fait. Est-ce que, moi, je l'ai déjà dit, j'ai déjà depuis le mois d'avril, je me suis dit, est-ce qu'au Québec, au Canada, en Alberta, est-ce qu'on peut aussi avoir une maturité collective de se dire, hey, on peut-tu débattre de nos propres affaires? Oui, il y a Trump, mais il y a aussi des problèmes qui méritent qu'on discute, en tout cas, en termes de santé, d'éducation, puis d'autres éléments.
Mais oui, puis on dirait qu'on oublie une chose, Rodolphe. Moi, c'est ça qui me sidère, c'est que quand ils ont fait leur fameuse annonce, les Américains, là, sur les tarifs réciproques avec le petit tableau, ils ont appelé... tous les pays du monde ont passé des ententes, ou à peu près, avec les Américains. Les Britanniques l'ont fait, l'Union européenne l'a fait. Pourquoi c'est si compliqué? Pour nous autres, ça n'a pas l'air d'avoir été si complexe que ça. Avec les... Je comprends qu'on n'a pas la même quantité d'échanges commerciaux entre les deux pays, puis c'est pas la même réalité géographique, mais il semble avoir une incompatibilité totale entre les deux administrations. Tu sais, je regarde Starmer, il a l'air à s'être entendu avec Trump. Ça n'a pas été si long que ça, là.
Oui, mais la réalité, c'est qu'eux n'avaient pas d'accord de libre-échange a priori avant cet élément-là. Ça veut dire le Canada... Et un des seuls pays, bon, je pense que la Corée du Sud avait signé déjà un accord de libre-échange, par exemple, avec les États-Unis. Nous, on avait déjà l'ALENA ou le CUSMA, etc. Mm-hmm. Les Européens n'en avaient pas, les Anglais n'en avaient pas, donc ils ont un tout petit peu accepté le deal. Nous, on essaye un tout petit peu de dire, attends, parce que le problème actuellement, c'est qu'il y a des éléments qui sont couverts par l'accord, il y a des éléments qui sont en contravention de l'accord, et aussi, si on acceptait une sorte de forme de deal, par exemple, ben c'est comme si on jetait tout l'accord à la poubelle, puis on était dans une situation après où on normalise les tarifs, puis on se dit, OK, on ne reviendrait pas en arrière. Donc, c'est pour ça que je te dis que le Canada, c'est vrai, était dans une situation différente que l'Europe ou, par exemple, l'Angleterre, parce qu'eux n'avaient pas d'accord de libre-échange à la base avec les États-Unis.
Toi, t'es conseiller, Rodolphe, t'es conseiller de Carney, mettons, là, on parle hypothétique. Là. Tu conseilles quoi? Parce que là, tu as quand même une élection au Québec qui peut potentiellement faire élire le Parti québécois et un référendum. Tu as un référendum en Alberta qui s'en vient aussi, là, est-ce qu'on aura un référendum sur un référendum. Tu conseilles quoi à Carney, de retourner à la table ou d'attendre encore un peu?
Ben, écoute, le problème, c'est que retourner à la table, il faut être deux pour retourner à la table. Actuellement, je ne crois pas qu'il y ait des signaux des États-Unis. On va voir, là, pour l'instant... M. Carney a quand même réussi à équilibrer certains éléments du point de vue intérieur. Ne l'oublions pas. Oui, il a dit, si l'Alberta, si vous voulez faire un pipeline, faites-le, puis il a un peu tordu le bras à la Colombie-Britannique.
Ouais.
Mais d'un autre côté, il a fait Churchill Falls, où il a aidé à ce que Churchill Falls. Donc, il peut se dire, regardez, j'ai fait quelque chose pour l'Est, j'ai fait quelque chose pour l'Ouest. Là, par exemple, un des éléments que moi, je me pose sérieusement comme question, l'annonce ce matin là de Mme Fréchette en disant on va changer les appels d'offres pour s'assurer que ce soit Québécois ou Canadien. Moi, quand j'ai vu ça hier soir, j'ai dit, attendez un instant, là. On a aussi, nous, un accord de libre-échange avec l'Europe. Si on discrimine contre les États-Unis, il faut faire attention que par la bande, on ne discrimine pas contre des entreprises allemandes ou françaises, parce qu'on a aussi un accord avec eux. Donc, il faut faire attention.
Mais
surtout que quoi? La semaine prochaine, il va où, M. Carney? Il va en Europe. Il va faire son fameux discours à Strasbourg devant la Commission européenne pour dire on veut faire plus de commerce. Donc, il faudrait faire attention que les Européens ne nous disent pas « Hey, le Québec, là, attention, là, vous êtes peut-être en train de contrevenir à l'accord de libre-échange avec l'Europe par la bande. » Là, je sais que ce n'est pas l'objectif de l'Europe, mais tu sais, en commerce international, il faut faire attention quand on frappe un, ben, il faudrait faire attention qu'il n'y a pas un dommage collatéral. Ce serait un peu bizarre que l'Europe dise la semaine prochaine à M. Carney « Bon, oui, on veut faire plus d'affaires, mais le Québec vient de nous exclure de certains éléments ou de donner un avantage par rapport à certaines compagnies québécoises par rapport à certaines entreprises européennes. C'est pour ça que je te dis, c'est très, très compliqué actuellement ce qu'il est en train de faire. Puis, moi, j'attends toujours avant la fin de l'année. L'Europe a signé un accord ou un protocole d'accord de libre-échange avec l'Inde. Le Canada, on avait commencé aussi à négocier avec l'Inde. C'était même à mon époque en 2015.
Il n'y a rien. On n'entend rien, là.
Ben, c'est pour ça. Ça veut dire, M. Carney peut bien dire diversification, diversification. J'ai hâte de voir est-ce qu'il va réussir à avoir, par exemple, un accord avant l'Inde, avant la fin de l'année. Je l'espère parce que c'est un pilier, en tout cas, de sa stratégie de diversification.
Rodolphe, merci beaucoup de tes lumières, puis on s'en reparle.
À bientôt, merci.
Voilà.
Merci.
Rodolphe Osny. Moi, c'est surtout, tu sais, on a comme aussi empêché les alcools américains. Hein? Interdit complètement, là. T'interdis complètement des compagnies à faire affaire au Québec. Puis tu te surprends que l'autre bord, il veut faire la même affaire avec des avions. Puis voyons. Remets les alcools américains sur les tablettes. Puis ils vont peut-être dire on va vous lâcher tranquille, là.
Ben non.
Tu sais, je disais, là, on capote parce que. L'autre, il veut nous empêcher de faire de la business aux États-Unis, mais nous autres, on empêche les Américains de faire de la business ici. Tu sais, à un moment donné, il y a des limites. Nous autres, ils disent, là, attends une minute, là, on va jouer, on va appliquer la même doctrine que vous autres. Ça se peut que ça fasse mal. Là.
Mais ça se peut que ça fasse très mal, ouais.
Voilà, voilà, voilà. Hey, on ouvre les lignes après la pause. On y va-tu là-dessus?
Oui, je pense que oui.
Ah oui.
C'est le fer est chaud.
Oui.
Donc, c'est ça. Est-ce que, ben, dans le fond, jusqu'où on est prêt à aller? Dans tout ça.
Des tarifs pour tarifs, là?
Tarifs pour tarifs.
Parce que là
il y a quelqu'un sur le texto qui dit, à vous entendre, on devrait accepter n'importe quel deal.
Non, mais c'est parce qu'on vit dans une doctrine. Nous autres, on pense qu'il n'y aura pas de tarifs, jamais. Mais c'est plus ça, là. Ben les économistes vous le disent. Les démocrates vont mettre des tarifs. On est rendu dans une ère de tarifs, de protectionnisme. On est revenu à ça. Parce que les Chinois sont pas trop stables. C'est un peu ça, là. Ce que les Américains nous disent, c'est vous allez choisir entre la Chine ou nous autres.
Exact.
Là, vous voulez jouer avec la Chine, c'est correct, mais vous allez vous faire tasser des accords de libre-échange. Il y a un prix à payer à vouloir jouer avec la Chine aussi. Puis vous aviez un des accords de libre-échange les plus uniques au monde. Vous voulez scraper ça, pourquoi? Pour faire affaire avec la Chine? Correct. Mais il y a un prix à payer pour ça.
Il y a un prix à payer.
Fait que c'est quoi? On va-tu jouer dollar pour dollar jusqu'à la fin de nos jours? Je pense pas, on pourra pas. Ça va fermer, les annonces vont succéder, on va fermer les shops. Donc,
Ben c'est parce que si tu veux jouer cette game-là, il faut que tu sois capable de la jouer. T'sais, si toi, tu étais dans la cour d'école, parce qu'on prend souvent cette métaphore-là. Là. Ah ouais, on a deux boulets dans la cour d'école. Ouais, mais si tu joues là, tu peux faire du bluff. Mais le jour où tu te confrontes avec le boulet, il faut que tu sois prêt à te confronter pour vrai.
Ben,
si à la première claque sur la gueule, tu te couches à terre et tu te dis, ah finalement, je joue plus. Ben là, de quoi t'as l'air?
Mais ça ressemble à ça, là.
C'est...
On est là-dedans. La question, on va y aller pointu. Croyez-vous que la stratégie est bonne et jusqu'à où on peut tenir le coup, là? Parce qu'à un moment donné, on va le voir, il y a des shops qui vont dire on ferme, on s'en va. On doit retourner à la table ou on continue à jouer comme ça, là, à celui qui pisse le plus gros, sachant qu'on est dans une... Il y a des élections au Québec, là. Puis le Parti québécois est en tête d'un sondage, là. On s'en va vers un gouvernement minoritaire, mais ils lâcheront pas le morceau tant que les élections ne seront pas finies et que la CAQ soit remontée. Là. On est là-dedans aussi. On joue un jeu politique. Voilà, on revient après la pause.
Couture dans le mid.
On fait une petite pause, puis on revient dans pas long.
Radio X.